Nous nous retrouvons à nouveau sur le site Fac de Lyon au bâtiment B de la Fac d'Éco pour le congrès annuel de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision 2026. J'ai en face de moi Nicolas Besson, nominé pour le prix du meilleur article au titre « Logistique collaborative pour une association d'agriculteurs en circuit alimentaire de proximité ». Aspect éthique. Alors, il y a plein de mots-clés qui nous font dresser les oreilles. Logistique collaborative, association d'agriculteurs, circuit de proximité, éthique. Bonjour Nicolas Besson.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots votre parcours de chercheur et ce que vous venez faire dans ce congrès de la ROADF?
Avec plaisir. Alors, je suis en doctorat, en troisième année. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet que vous avez mentionné de mon article. Personnellement, je suis très intéressé par les sujets théoriques et aussi éthiques, donc philosophiques, de ce domaine. Donc, je m'intéresse à circuit alimentaire de proximité, c'est-à-dire la commercialisation de produits locaux, donc à une échelle locale, et la logistique collaborative, c'est-à-dire la logistique, c'est l'ensemble des décisions qui permettent à un produit d'atteindre le consommateur final. Et donc collaborative, c'est un effort commun entre plusieurs agriculteurs afin de résoudre des problèmes logistiques, donc de prendre les meilleures décisions qui permettent à ces agriculteurs de par exemple livrer les produits, leurs produits, voilà. Et donc les aspects éthiques, c'est parce qu'on se retrouve, à partir du moment où on décide de coopérer, on se retrouve avec des problèmes d'équité. Parce qu'il faut, il faut fournir un effort commun, et pour qu'on ait tous un intérêt à coopérer, il faut que l'effort soit équitable. Parce que si jamais je me vois, c'est injuste pour moi, je n'aurai pas un intérêt de coopérer, voilà.
Coopérer, effectivement. Et la recherche opérationnelle, donc, à la base, c'est optimisé dans un réseau de contraintes. Pour le transport de circuits alimentaires, on voit le réseau de contraintes. L'optimisation, c'est le choix des critères. Donc, effectivement, coopérer, peut-être, c'est, comment dire, sur le choix des critères que les choses vont pouvoir se faire, hein, même s'il y a d'autres théories comme la théorie des jeux qui peuvent être mis en jeu. Dans les critères de décision, on voit dans votre article, vous listez trois visions, trois regards sur la décision, la décision utilitaire, la décision kantienne et la décision rolésienne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
Tout à fait. Alors, cette catégorisation des décisions selon les visions de l'éthique ou de la philosophie de l'éthique, elle ne vient pas exactement des décisions côté optimisation, mais plutôt du côté qu'est-ce qui se passe si l'équité est impossible. Parce qu'il se trouve que dans la littérature de théorie des jeux, on a prouvé qu'il existe des situations où l'équité ne peut pas être atteinte. C'est-à-dire que peu importe comment on coopère, peu importe comment on répartit les coûts, il sera impossible d'être équitable. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est que si jamais un décideur, il se dit « Ok, pour moi, le plus important, c'est la stabilité ou le bien-être global, et que si jamais je dévoile le fait qu'on ne peut pas être équitable, et ben, y aura des gens qui voudront partir de l'association, de la coalition. Et si les gens partent, et ben, on va perdre à l'échelle globale. Et donc, ce n'est pas très utilitariste de dire et ben, on ne peut pas être équitable. Donc, ça pousserait les gens à cacher l'information de « dans cette situation, c'est impossible d'être équitable. » Ou alors, si on est plutôt kantien, on aurait tendance à dire « si je cache cette information à mes producteurs, eh ben, je les considérerais comme un moyen pour atteindre quelque chose. » Et donc, Kant, il dirait il faut pas utiliser les humains comme des moyens, mais comme des fins en eux-mêmes. Voilà.
Et vous avez inventé un troisième concept, enfin inventé est un mot un peu trop fort, qui est le rolésien. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu mieux ce qu'est le rolésien ?
Alors, c'est John Rawls qui a écrit un livre qui s'appelle La théorie de la justice dans les années 70, qui propose le concept de voile d'ignorance pour établir quelles sont les décisions justes. Donc le voile d'ignorance, c'est de prendre une décision comme si on ne savait pas où dans la société on va être. Donc il se peut que je mets le voile d'ignorance et je ne sais pas où je suis dans la société. Et au moment d'enlever le voile, je vais me retrouver soit en étant plus favorisé ou moins favorisé que les autres. Et donc ça va me pousser, afin que je puisse être juste, à prendre des décisions qui favorisent les moins favorisés, en gros. Et donc ça, c'est une vision égalitaire. Donc ça nous pousse à prendre des décisions égalitaires. Mais la vision rawlsienne est plus pour la répartition des forts. C'est-à-dire, je veux que l'effort le plus grand soit minimisé le plus possible, ou que l'inéquité la plus grande, enfin la personne qui se voit la moins favorisée, eh ben elle soit pas aussi défavorisée que ça. Désolé, j'ai du mal à m'exprimer.
Et tout cela, on comprend bien, et même pour moi qui ai fait très peu de philosophie, c'est quelque chose qui capte mon attention, et je pense que ça a pu faire dresser l'oreille de certains de nos auditeurs. Donc là, on est dans la modélisation. On arrive à capter cette philosophie-là dans les modèles de recherche opérationnelle aujourd'hui, à travers des contraintes, à travers des formulations mathématiques, ou il faut inventer autre chose?
Bien sûr. Alors, ce qu'on observe en recherche opérationnelle, c'est quand on dit « je veux proposer une vision égalitaire dans mon modèle », Ce qui est fait, c'est on propose de maximiser le pire cas. Donc, à partir du moment où on dit on maximise le pire cas, je suis en train de optimiser quelque chose. Donc, voilà. Donc, on retombe dans la recherche opérationnelle. Ou alors, si on est utilitaire, eh ben, je vais maximiser l'utilité globale.
D'accord. C'est la fonction d'utilité qu'on retrouve en théorie économique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc là, c'est l'aspect modélisation. On a les contraintes et les critères. Et puis dans l'aspect résolution, quelle technique de résolution est-ce que vous mettez en œuvre, ou vous n'en êtes pas encore là dans votre travail?
Alors, moi, je me concentre par exemple sur la répartition de coûts de transport. Et dans la répartition de coûts de transport, j'utilise un modèle de programmation linéaire en nombre entier, qui est très classique en recherche opérationnelle. Voilà.
Nous avons reçu tout à l'heure un chercheur canadien qui a fait ensuite, qui est actuellement en résidence à Milan. Le côté international, finalement, de la recherche, et notamment de la recherche opérationnelle, comment vous appréhendez ça? Comment vous voyez ça?
Vous pouvez reformuler la question, pardon.
Actuellement, vous êtes dans un laboratoire en France, oui, si j'ai bien compris. Pour la suite, est-ce que vous envisagez des laboratoires dans toute l'Europe? Et les contacts que vous avez pu prendre ici aujourd'hui au congrès, est-ce que ça vous a fait chaud au cœur de pouvoir discuter avec des collègues italiens, qu'ils soient de Turin ou de Milan, ou des collègues canadiens, qu'ils soient de l'Ontario ou du Québec? En tant que jeune chercheur, le fait d'avoir une communauté ouverte sur les citoyens du monde, quel sentiment ça suscite en vous?
Alors, jusque-là, j'ai été en contact surtout avec des Français. Mais moi, je viens de Colombie, je suis né en Colombie et j'ai grandi en Colombie, d'où l'accent, d'où mon accent. Et donc, je trouve que c'est plutôt politique, ce que je veux dire, c'est que l'aéro Et le fait que j'ai grandi dans un pays comme la Colombie, ça me pousse à avoir une recherche d'une meilleure société, surtout dans mon pays. Et je pense que l'aéro peut nous aider pour ça, et surtout, par exemple, avec des sujets comme celui de ma thèse. Voilà.
Ah bah, vous répondez à la question que j'allais vous poser, c'était pourquoi cet intérêt aussi marqué pour quelque chose, enfin pour l'équité en fait, pour trouver comment rendre le monde plus équilibré ou plus juste, mais vous venez d'y répondre, alors je vais en poser une autre. On voit que vous avez un très fort intérêt pour la philosophie aussi. Et donc c'est vrai qu'on a tendance, en tout cas en France, à séparer d'un côté les sciences dures, les maths, l'informatique, et puis tout le reste, la philo, les langues étrangères, la littérature ou que sais-je. Et donc, est-ce qu'à votre sens, il y a un seul et unique savoir et une seule et unique culture ?
Wow, il est incroyable la question. Est-ce qu'il y a un seul et unique savoir et une seule et unique culture ? Alors, bon, c'est très philosophique. Moi, j'ai tendance à croire qu'on a tous des valeurs communes qui s'expriment de façon différente. Voilà. J'ai tendance à croire à une valeur objective que tout le monde en a à l'intérieur de nous. Et la culture, c'est juste une expression différente des mêmes valeurs. Donc, par exemple, on voit dans différentes cultures des valeurs comme l'amour. Et l'expression de l'amour en Colombie, c'est pas la même chose que l'expression de l'amour en France. Mais pourtant, l'amour, c'est le même. Donc, au fond, il y a les mêmes valeurs. C'est très débattable ce que je dis, bien sûr, mais c'est mes convictions, je pense.
Et alors, est-ce que vous pensez que l'être humain est fondamentalement bon et honnête ?
Oui, je pense absolument que l'humain est bon et honnête.
Mais alors, pourquoi faire de l'aéro ?
Pourquoi faire de l'aéro ?
C'est-à-dire que c'est pour aider à réguler quelqu'un qui, si l'humain est fondamentalement bon et honnête, est-ce qu'il ne peut pas se réguler tout seul ? Est-ce qu'il a besoin du concours de l'aéro ?
Ah, mais on n'est pas omniscient. On n'est pas omniscient, bien sûr. L'aéro peut nous aider à étendre les connaissances. On est imparfait par l'ignorance, mais l'ignorance, c'est celle qui causerait cette imperfection et le fait d'utiliser par exemple des sciences comme l'aéro, ça peut nous aider à devenir moins ignorants et prendre les bonnes décisions.
Espérons-le.
J'espère aussi.
Allez, c'est quoi votre livre de chevet ? Qu'est-ce que vous lisez pour réfléchir chez vous quand vous avez du temps pour vous reposer ?
Alors, j'aime bien lire Dostoïevski par exemple, j'aime beaucoup. Ou alors, j'aime bien Kant, j'aime beaucoup en général. J'essaye de lire La critique de la raison pure, mais c'est très difficile. voilà.
Voilà. Et alors, une prochaine thèse en philo ?
Oh, ce serait incroyable. Ah, ce serait incroyable. Ce serait bien philo-politique aussi, j'aimerais beaucoup.
Bon, et c'est tout ce qu'on vous souhaite alors.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.